De ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et d'un cœur fraternel. Nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout. Et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et d'un. Nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'apicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et d'un. Nous réaliserons l'idéal libertaire pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie. On nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et d'un. Nous réaliserons l'idéal libertaire.
Alors que l'État nous parle de laïcité, la ville de Marseille débourse 3 millions d'euros pour payer 20% des travaux de réfection de l'église de Saint-Vincent-de-Paul, l'église des réformés. C'est l'église qui est connue pour... pour l'engagement de ses ouailles contre le mariage pour tous, notamment. Quand l'État nous parle de défense des femmes pour faire passer des lois racistes, la ville de Marseille débourse 150 000 euros pour l'élection de Miss France au Dôme et tente de redorer son image, son blason. Une image de pourriture et de moisie quand on pense à Herbel et ses habitats insalubres, sans eau potable, où règne la légionellose. Ou alors quand on pense à Maison Blanche qui peut partir en fumée sans émouvoir ni État ni mairie. Quand on pense aussi aux 3000 délogés, aux 8 victimes d'un effondrement programmé à Noailles. Une bavure, non. Une bavure est hors système, c'est un dommage collatéral non envisagé. Il ne s'agit pas de bavure, il s'agit bien d'un système où les dommages collatéraux sont pesés, mesurés, approuvés. C'est le système d'une paupérisation voulue par l'État, une tachérisation des acquis sociaux, l'appauvrissement et la ruine du peuple. Voilà le système. Il s'agit pour l'élite de créer une insécurité sociale. Une insécurité sociale, une violence sociale qui fait dégainer des pendaisons, des suicides de balcon, des alcoolismes chroniques. Une violence sociale qui crée la peur. Une peur pour tout faire gober. Gober les marchandises, car la peur, comme les émissions de télé en général, crée le besoin d'acheter. Gober les politiques, car la peur fait voter. Gober les boulots les plus précaires, car la peur fait couber les chines. Fait travailler dans les pires conditions. Fait accepter de jouer aux mercenaires, de taper, de faire mal, d'éborgner, d'expulser. Fait accepter l'inacceptable. Mais, il y a des gens qui refusent de baisser la tête et de devenir les laquais du roi. Autour de la table aujourd'hui, dans Libre Débat, on reçoit ces personnes avec Bug à la technique et moi-même dans Libre Débat, du coup, jusqu'à 18h. Merci d'être là, Kamel Gay-Marie, déléguée FO du McDonald's de Saint-Barthélemy, qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire, mais occupée. Occupée est devenue aujourd'hui un lieu d'échange que vous pouvez tous, toutes qui écoutez la radio, venir soutenir, saluer. Donc merci d'être là.
Merci.
Et Serge Reynaud, délégué Sud PTT, du coup, à la Poste, qu'on retrouve sur les piquets quand il y en a, sur les blocages aussi le matin, au centre de tri à Arinc. Merci d'être là aussi.
Merci de ton invitation.
Est-ce que vous pouvez nous dire le travail dans votre entreprise, donc la Poste et le McDo, depuis combien de temps en fait, vous y travaillez en fait? Ça fait combien de temps que vous êtes dedans?
Tout d'abord, je tiens à saluer un camarade aujourd'hui qui est postier du 92. Donc, solidarité à Gaël Kéran. Parce que, qu'on soit postier ou salarié McDonald's, où on est obligé de relever la tête et faire face à un système. Ce système-là qui pratique une violence sociale. Qui opprime ses salariés qui veulent travailler dignement. Donc moi, ça fait 21 ans que je travaille chez McDonald's.
D'accord.
Alors pour moi, c'est je travaille à la Poste depuis 1993. Donc ce qu'on peut dire des conditions de travail, de leur évolution, hein, si on part du début de ma carrière à aujourd'hui, c'est que je vais pas être le seul à faire ce constat-là, c'est celle d'une dégradation vraiment en continu. Ça c'est très clair. De fait, le statut de l'entreprise a évolué vers la privatisation. Donc cette privatisation a entraîné des suppressions d'emplois, le développement de la précarité et une répression féroce à l'intérieur de l'entreprise contre tous ceux et celles qui s'élèvent contre cette politique-là. Et là, je rejoins tout à fait, évidemment, Kamel, lorsqu'il parle de Gaël. Hein, il symbolise un peu cette répression-là, vu qu'il passe au tribunal, par exemple, pour des violations de domicile. Donc, rentrer dans un bureau de poste, hein, dans son entreprise, pour y faire des prises de parole et des AG, est considéré par l'employeur comme une violation de domicile. Donc, il subit une répression et un acharnement absolument terrible. J'ai envie de dire que la Poste a pris la mesure de son engagement et essaie de le détruire. Il a été licencié, il est poursuivi devant les tribunaux, il a été perquisitionné. Il symbolise bien l'ambiance aujourd'hui au sein de la Poste. Quand on parle de Gaël, on est obligé aussi de parler de Yann, Yann Lemerer. Lui, il a un statut différent, il était fonctionnaire, je dis été, parce que lui aussi, il a été révoqué. C'était le premier fonctionnaire révoqué pour son activité syndicale depuis 1947. Donc on voit, on remonte loin à une autre époque, hein, c'était l'époque de la guerre froide, où les gens se faisaient virer parce qu'ils étaient communistes. Donc on remonte loin en arrière pour arriver à trouver des situations complètement folles. Et bien sûr, je pense aussi à tous les autres camarades dont les affaires ont été moins médiatisées, mais qui en ont pris tout autant pour leur engagement.
Et vous, du coup, au bout de combien de temps vous avez connu des problèmes au travail ? Est-ce que c'est tout de suite ? Est-ce que ça a mis quelques années ?
Alors, oui, je continue. Ouais. Alors, au début, on avait des problèmes beaucoup avec la hiérarchie. La Poste est une entreprise très hiérarchisée qui n'est pas sans rappeler un peu une institution comme l'armée avec quelque chose de très strict et rigoureux. Alors quand on n'a pas cet état d'esprit, c'est un petit peu, ça fait des étincelles. Ça restait entre guillemets relativement mesuré. Avec l'évolution et la privatisation, là on est passé à tout autre chose. Là c'est vraiment la volonté d'éliminer et de faire taire. Pour moi, ça a été en 2008, au moment où en fait les projets de la Poste devenaient plus prégnants sur l'aggravation des conditions de travail. Vraiment quelque chose de un saut important. Ils ont appelé ça facteur d'avenir. Ils cultivent le paradoxe et ça a été vraiment le début de la mise à mort du métier de facteur. Où là, j'ai écopé de 2 ans de mise à pied, donc 2 ans sans salaire, vu que moi aussi je suis, comme Yann Lemerer, fonctionnaire, avec, on en retient souvent les avantages du statut, il y a aussi des petits inconvénients, et notamment celle-là, c'est de pouvoir avoir un panel de sanctions très très large, qui permet ce genre de choses, c'est-à-dire de priver de salaire, de tout revenu en fait, vu qu'on ne cotise pas pour le chômage, un salarié pendant de très longues périodes, ce qui permet évidemment de le mettre totalement sur la touche et de pouvoir faire avancer les projets. Moi j'étais dans un bureau de poste à cette époque-là, qui est situé à Colbert, un bâtiment qu'ils sont en train de rénover pour mettre la direction. J'ai été évincé. Derrière, ils ont eu un plan de fermeture de l'établissement et de délocalisation. Une opportunité.
Toi, tout de suite, tu as été syndiqué, du coup. Tout de suite, tu as été...
Oui, alors c'est une histoire familiale, on va dire. Souvent, ça marche un peu comme ça. Des parents politisés, syndiqués. Donc moi, quand je suis arrivé à la Poste... je découvrais ce mode-là, je savais pas trop quelles étaient les organisations syndicales, ce qu'elles pesaient, ce qu'elles vous disaient, et je me suis fait ma propre idée assez rapidement par le biais de rencontres. J'ai pas été à Sud PTT tout de suite. On a créé avec un de mes camarades de travail à cette époque-là la CNT sur mon bureau de poste en région parisienne. Et ça a duré comme ça quelques années. Et après ma sanction disciplinaire et ma réintégration, c'est là où j'ai choisi Sud PTT, parce que tout simplement la CNT n'était pas suffisamment représentée et le climat de travail était tel et la pression était telle qu'il fallait une organisation syndicale qui soit en capacité aussi de protéger ses adhérents. De maintenir une activité syndicale réelle, faite de prise de parole, d'AG, de délégation de masse, de ce qui fait pour moi le syndicalisme réel, pas un truc bureaucratique où on se contente d'aller aux réunions avec le patron. Donc un syndicalisme vraiment vivant, mais dans une organisation plus importante.
Alors là, tu parlais d'armée. Kamel, toi, dans le McDonald's de Saint-Barthélemy, est-ce que tu peux décrire les conditions de travail, ton rapport avec peut-être les collègues aussi, et à quel moment tu as commencé la lutte et...
Donc, je pourrais dire que nous, quand on est soumis à une enseigne qui est connue mondialement et que elle est là uniquement pour la rentabilité et le chiffre d'affaires. Donc cette violence sociale, moi, inconsciemment, quand je suis rentré dans ce restaurant, je l'ai subie du premier jour. Et cette violence, elle existe bien avant que moi, j'existe au sein de cette enseigne-là. Donc, on a fait qu'aujourd'hui, encaisser le coup, apprendre nos droits, la vie de l'entreprise, la santé surtout, et en sachant que l'entreprise a une très bonne santé, qu'elle continue à opprimer ses salariés. Donc,
comment ça se passait concrètement ?
Ça s'est fait naturellement, parce que quand on subit une injustice au sein d'un climat social, d'un environnement qui est plus ou moins délaissé politiquement ou socialement. Aujourd'hui, voilà, quand on rentre dans ces entreprises-là, on ne sent pas les coups, parce qu'on a l'habitude de prendre les coups. Mais à fur et à mesure qu'on commence à prendre nos droits, on prend conscience qu'ils sont en train d'abuser de l'être humain. Et c'est de là qu'aujourd'hui, cette mobilisation, se mettre face à un système qui est déshumanisé, parce que souvent on a affaire à des DRH, directeurs de ressources humaines, mais on ne voit pas l'être humain, on voit que des pions et des chiffres. Quand on a pris conscience de tout ça, on a commencé à s'auto-organiser nous-mêmes, parce que il n'y a que celui qui ressent la douleur qui sait comment l'exprimer. Donc après, comment je suis rentré dans le syndicalisme, dans le syndicat plutôt, je suis rentré par conviction, par se dire voilà, aujourd'hui il y a une personne qui peut porter la parole des salariés. Cette personne-là, au lieu de laisser la place à d'autres personnes qui sont à la botte ou à l'image du patronat, on va essayer d'être à l'image et au service de ceux qui nous ont donné confiance, c'est les salariés. C'est les salariés qui nous ont élus. Donc nous, on doit faire honneur à cette confiance. Et c'est de là qu'on a commencé à se mettre en route, apprendre, ne pas arrêter d'apprendre. Après, politiquement, mes parents ne connaissent pas la politique. Se dire je ne connaissais pas le syndicalisme. Mes parents, comme d'autres parents qui sont issus d'une classe sociale inférieure, ils sont tellement écrasés par un système que ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le rejet. Et on a commencé à se faire de nous-mêmes. C'est ça qui est plus difficile, mais on espère que nous, en tant que salariés, peu importe de quel métier, on se dit qu'aujourd'hui, après le supplice, il y a le délice.
Et qu'est-ce qui a motivé ton choix de FO par rapport à d'autres ? Est-ce que c'est un collègue ? Au bout de combien de temps il y a eu ce choix de syndicat ?
J'appartenais à une organisation syndicale, peu importe le nom, parce que aujourd'hui le syndicat est un outil mis à disposition pour celui qui veut porter honneur aux travailleuses et aux travailleurs. Comme on a vu que j'étais un peu une tête dure, ils ont dit voilà, cette personne-là ne correspond pas à nos critères. J'ai pris ça tranquillement. Je me suis orienté vers Force Ouvrière parce que je me dis que aujourd'hui, souvent, on pointe des personnes du doigt, le syndicalisme. Ce que j'aimerais bien faire passer comme message, aujourd'hui, quand on dit tel syndicat ou tel a fait une connerie, non, c'est l'être humain qui a fait une connerie. Parce que le syndicat lui a confié un mandat qui n'a pas fait honneur à ce mandat-là. Et moi, je me dis que j'ai pris ce mandat-là chez les forces ouvrières pour uniquement représenter de la meilleure manière à ceux qui m'ont donné confiance, leur confiance.
Et tous les deux, par rapport à vos collègues, est-ce que vous étiez en minorité? Et ça s'est passé comment avec vos collègues par rapport à la hiérarchie? Est-ce qu'il y avait, vous étiez isolé, même si vous étiez syndiqué, ou est-ce qu'il y avait vraiment un rapport de force intéressant au sein même de l'entreprise?
C'est rigolo, on était diabolisés. De suite, ils nous ont mis à l'écart. Doucement, on a réussi à gagner le cœur des travailleuses et des travailleurs par notre crédibilité, par l'écoute, par les petits outils qu'on a en tant que représentant. Ensuite, on est parti de petit, on a réussi à gagner des élections, réussi à obtenir des droits aux salariés. Et c'est ça qu'a fait aujourd'hui notre crédibilité. C'est pas l'image d'une organisation syndicale, c'est le fruit que ce qu'on a pu obtenir sur le terrain. Face à une violence, bien sûr, patronale, qui cherche à écraser tout ce qu'ils peuvent faire face à un système. Parce que eux, ils veulent le système qui roule que dans un seul sens, qui est leur sens à eux. Parce que le dialogue social n'existe pas. Parce que le dialogue social, aujourd'hui, face à ces personnes-là, ils se permettent de tout. Et pour eux, si on n'obéit pas à ce qu'ils veulent, aujourd'hui, ils nous mettent dans le néant.
Et toi, Serge, du coup, le rapport, est-ce que tu étais isolé, le rapport avec tes collègues?
Alors, ce que dit Kamel est très juste. Hein. C'est vraiment le travail de terrain qui va faire la crédibilité et qui va faire basculer le rapport de force. Alors évidemment, c'est un long chemin avec des hauts et des bas. Hein. La meilleure preuve, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, pour moi qui suis postier, c'est l'actuel mouvement contre les retraites, où on n'a pas su convaincre nos collègues de sortir massivement en grève. Mais sinon, le travail, effectivement, quotidien, le rapport de force, vraiment chaque jour avec les hiérarchies, pour de meilleures conditions de travail, etc., fait vraiment notre force et nous permet d'entraîner les collègues, la discussion, le débat, les actions, même modestes parfois, qui créent ce lien qui est vraiment nécessaire et qui est le ferment de l'action syndicale. Hein. C'est pas des choses extrêmement compliquées au départ, c'est vraiment discuter, s'organiser et aller de petite victoire en petite victoire pour donner confiance dans les luttes.
Mmh. Et Kamel, toi, tu parlais d'environnement aussi, avec une souffrance. Peut-être, bon, McDonald's, il est situé à Saint-Barthélemy. C'est que bon, là-bas, il y avait l'habitude d'en ramasser plein la gueule, on va dire, par l'État. Est-ce que tu peux décrire cet environnement? Enfin, est-ce que ça fait une spécificité dans ta lutte dans le McDonald's par rapport à d'autres McDonald's?
Là où on trouve les choses, là où on n'arrive pas à comprendre, c'est que on est dans une zone franche que l'État a contribué à cette enseigne de pouvoir l'aider à maintenir l'activité dans une zone prioritaire, on va dire. Là où l'ascenseur social devrait exister. Donc non seulement on est frappé par la précarité, McDonald's, quand ils se sont installés, nous ont vendu un rêve. Nous, ce rêve-là, on a essayé d'en faire une place du village. Venez comme vous êtes. Créer cette fraternité, cette solidarité. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est en liquidation judiciaire, alors que pendant des années, on a été embêté par la L2. Cette enseigne-là a reçu des subventions. Et ce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est la position des personnes à qui on a élu ou qui se prennent pour des élus, qui nous représentent, que ce soit dans cet arrondissement ou d'autres personnes. Est-ce que nous, on mériterait aujourd'hui d'avoir la double peine au lieu qu'ils prennent en compte qu'il y a des êtres humains, qu'on est en train de leur tendre la main, de pouvoir se re-sociabiliser, parce que il y a eu pas mal d'échecs, que ce soit il y a pas mal de personnes qui ont eu un échec scolaire ou plongé dans la petite délinquance, pour leur dire voilà, vous pouvez prendre confiance aujourd'hui en vous-même par un outil du travail, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir demain vous en sortir dans votre vie. Et c'est un ascenseur social. C'est aujourd'hui on apprend comment, qu'est-ce que c'est le travail, et par la suite nous on essaie de les accompagner à faire des formations, ou s'ils ont la capacité d'évoluer, on leur donne l'opportunité de pouvoir évoluer, de pouvoir exister dans la société. Et cette enseigne là par magie crée des pertes, fait des ruptures conventionnelles faramineuses, ensuite corrompt des élus au profit de leur intérêt, au détriment de l'intérêt commun, c'est-à-dire d'un modèle social qui ne le ressemble pas, qui ne leur correspond pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire McDonald's. Aujourd'hui, le salarié de Saint-Barthélemy, tu lui dis on est où, on travaille où, ils vous répondent qu'on travaille dans Mac Malheur. C'est plus parce que voilà, c'est aujourd'hui cette enseigne-là devrait être un exemple. Elle soigne son image, mais elle prend pas soin de ses salariés. Mais il n'y a pas que cette enseigne, il y a d'autres entreprises. C'est un modèle social aujourd'hui qu'on dénonce, que ce soit avec les étudiants. Parlons des étudiants. Les étudiants, c'est la richesse de notre pays. C'est-à-dire, demain, c'est eux qui vont continuer à faire travailler l'économie et enrichir le pays. Essayer de ces étudiants, cette enseigne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite d'eux, comme des chiffons grilles. Une fois qu'ils sont usés, on les jette à la poubelle.
C'est quoi les difficultés rencontrées quand on est un travailleur à McDo, une travailleuse?
Ben, la première difficulté, c'est les conditions de travail, les heures. On ne peut pas étudier, avoir des heures décalées, se dire travailler le soir jusqu'à minuit, 2h du matin, et se lever le matin à 8h du matin pour pouvoir étudier. Donc on s'est battu pour pouvoir obtenir des heures de nuit. Il y a certains restaurants qui le respectent,
mieux payé,
qui le respectent, parce qu'il y a des syndicats qui sont là pour l'être humain, et d'autres, eh ben non, ils s'en foutent.
Tu parlais de conditions de travail, là, j'ai appris qu'il y a, aujourd'hui ou hier, il y a deux Péruviens, une femme et un homme, je crois au Pérou, qui sont morts électrocutés, donc le travail tue. Évidemment, malheureusement. Est-ce qu'il y a souvent des accidents de travail, enfin souvent, qu'est-ce que ça veut dire souvent? Il y en a trop de toute façon, mais est-ce que c'est une fatigue qui peut entraîner des coupures? Qu'est-ce qui se passe comme en termes d'accidents de travail généralement quand tu en as?
Dans cette enseigne, on est tellement concentré à pouvoir pomper notre richesse pour pouvoir l'optimiser dans des paradis fiscaux, qu'on oublie la sécurité humaine, qu'on oublie que c'est des êtres humains qui travaillent dans cette enseigne-là. C'est ça qui est triste et c'est ça qui amène à des drames humains. Il y a eu, il y a 3-4 ans, il y a même, non, il y a 4 ans, il y a une personne qui a failli se pendre au restaurant de Vitrolles. Parce que on a commencé à 4 ans, il y a même, non, il y a 4 ans, il y a une personne qui a failli se pendre au restaurant de Vitrolles. Parce que on a commencé à le violenter, à le mettre à bout. Une fois que la machine elle est en route sur l'être humain, c'est très difficile de pouvoir se mettre en face, parce qu'en face de nous, il y a les meilleurs avocats, il y a les meilleurs juristes, il y a les moyens, il y a la corruption. Et ce qui me désole, c'est qu'on nous utilise à nous, contre nous-mêmes. On corrompt des salariés pour essayer de faire des faux témoignages, essayer de camoufler. Aujourd'hui, voilà, il y a eu un drame, deux drames humains, hommage à eux, parce qu'on ne doit pas mourir dans des conditions, parce qu'on se lève pour aller travailler, gagner sa vie, et on se retrouve dans un symbole mondial, dans une multinationale, à perdre la vie ou à se faire enlever la vie. Parce que, voilà, on ne prend pas soin de la réalité, parce qu'on ne veut pas mettre une charte sociale en place. Et ça, il est là le réel souci. McDonald's a signé une charte d'environnement, était jaune et rouge, et aujourd'hui elle s'est mise au vert, elle soigne son image, mais elle ne respecte même pas le climat, parce que le déchet elle ne le traite pas. Parce que... aussi, quand on parle de la taxe soda, souvent on augmente les prix, c'est les clients qui les payent. Et l'argent que la clientèle, quand elle vient, elle voit tant de pubs par jour, elle est obligée d'influencer nos enfants pour venir consommer chez soi. Quand on consomme chez McDonald's, cet argent-là, on a appris qu'elle est optimisée dans des paradis fiscaux. Et c'est là où on a pris conscience aujourd'hui, que ce soit avec les collectifs, les Gilets jaunes, qu'il y a de l'évasion fiscale et ça impacte nos instituts. C'est pour ça qu'on a des liens avec les camarades des hôpitaux, les camarades du public, parce que c'est un manque à gagner.
On reviendra dessus après. Tu parlais de faux témoignages. Du coup, est-ce que vous pouvez parler tous les deux des conflits que vous avez pu avoir avec des collègues qui voulaient peut-être défendre le patron, est-ce que ça arrivait souvent là, parce que vous avez quand même une longue expérience au sein du McDo et au sein de la Poste. Est-ce que vous c'est plutôt anecdotique et puis on va passer à autre chose. Est-ce que ça c'est quelque chose quand même d'important, le diviser pour mieux régner au sein de l'entreprise?
Oui, ça fait partie intégrante de la stratégie. Pour ce qui concerne la Poste, ils ont l'habitude de monter des procédures disciplinaires, effectivement en faisant, en règle générale, témoigner leurs cadres, qui viennent tous le petit doigt sur la couture, apporter des faux témoignages. Donc la procédure leur est extrêmement facile et favorable. Ils ont la possibilité en interne, du fait du statut particulier de l'entreprise, de mener toute l'enquête absolument à charge, comme ils le veulent. Donc c'est très facile, le salarié est complètement démuni, on monte le dossier, on empile les faux témoignages, alors uniquement par écrit bien sûr, jamais de confrontation directe, etc. On fait un rapport, on passe le salarié en commission disciplinaire, donc il y en a deux différentes, une pour les salariés de droit privé, une pour les fonctionnaires. On sanctionne très lourdement et après, c'est l'affaire des tribunaux avec des délais extrêmement longs et des possibilités de réintégration extrêmement faibles. Que par exemple, pour un salarié de droit privé, même si son licenciement est reconnu abusif, hormis s'il est représentant du personnel, dûment mandaté par une organisation syndicale, il n'y a pas de réintégration. Il y a... compensation financière, mais pas de réintégration. Pour un fonctionnaire, donc le panel des sanctions étant plus large, bien souvent, ils vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire la révocation, mais ils sanctionnent très lourdement y a absence de revenus pendant des mois, voire des années. Et après, soit le camarade, il finit par réintégrer à un moment donné ou gagner devant la justice. Mais alors là, il y a des délais extrêmement longs. Pour mon cas personnel, ça a mis 9 ans. Alors, en règle générale, la victoire est au bout, parce que les procédures sont honteusement mensongères. Mais la lenteur de la justice, les appels successifs, font que il y a des durées absolument records. Et si j'avais pas été soutenu par mes camarades, par mon syndicat, je serais pas arrivé au bout pour des raisons purement financières. Parce qu'à chaque fois que vous avez un appel, à chaque fois que vous devez aller, par exemple, je suis allé 2 fois au Conseil d'État. Donc c'est une juridiction très spéciale avec des avocats qui achètent leurs charges. Donc vous en avez une petite liste comme ça, vous n'avez pas d'alternative que de prendre un de ces cabinets d'avocats, et ça vous coûte extrêmement cher. Si vous n'avez pas ces moyens-là, tout simplement, vous n'arrivez pas au bout de la procédure. Donc là aussi, il y a évidemment, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. C'est, les procédures sont longues, coûtent cher, et l'intérêt évidemment de l'entreprise, c'est de multiplier ce type de procédure, parce que eux, ils sont tellement énormes, que ce soit la Poste, qui est aussi une multinationale, hein, ils sont développés à l'étranger, ils ont des tas de filiales, que ce soit en France, en Europe, voire dans le monde, ou McDonald's, ils ont des moyens considérables qu'ils peuvent consacrer à la répression. Hein. La Poste a un cabinet d'avocats parisien qui va partout en France pour, quand il y a des cas un peu pour eux, un peu intéressant, emblématique, où ils aimeraient bien avoir une jurisprudence qui leur donne raison, ils envoient ce cabinet parisien dans tous les tribunaux de France pour essayer d'avoir une cohérence dans leurs attaques contre les salariés. Donc, à mon avis, à l'année, ça doit leur coûter beaucoup d'argent, mais ils ont beaucoup d'argent à investir là-dedans, parce que les enjeux, évidemment, ça se compte en milliards. Hein, que ce soit pour McDo ou La Poste, chiffre d'affaires de La Poste, c'est 24 milliards. Ça fait de la monnaie. Donc tous ceux qui gênent, là, qui sont là, salariés à la base avec leurs 1000 et quelques euros, s'ils peuvent les évincer, ça facilite quand même la recherche du profit. Donc, je rejoins tout à fait Kamel, hein, le profit tue, très clairement. Hein, il y a eu un reportage sur Envoyé spécial de septembre dernier, où on voit que La Poste a une cellule spécifique sur les suicides à La Poste, la communication, enfin la contre-communication plutôt, vu qu'il s'agit d'étouffer les affaires de suicide en disant que c'est des affaires personnelles, machin, etc. Et sur le centre courrier sur lequel je travaille, il y a eu 2 tentatives de suicide sur le lieu de travail en 5 ans. Donc, ce qui est quand même pas tout à fait rien. On parle d'un établissement de 350 personnes. Alors, c'est pas un truc où il y a des millions de gens. Donc on voit quand même que effectivement la recherche du profit, l'aggravation des conditions de travail, la précarisation, tout ça, évidemment, on en fait un seul gros paquet sur la recherche à tout prix de la plus-value, du profit, quelles que soient les conséquences. Ils n'ont strictement rien à faire. Ils sont sur autre chose. On n'est effectivement que des chiffres, que des pions, et ça s'arrête là. On est dans 2 mondes différents, vraiment dans 2 mondes différents. Nous, on parle travail, conditions de travail, dignité des travailleurs, des travailleuses, et de tout ça, de services publics. Hein, c'est pour rejoindre Kamel sur le 14e. Nous, on dessert le 1er, 2e, 3e, 4e et 14e arrondissement de Marseille, là où je travaille. Et le service public, pour nous, c'est extrêmement important. Ça veut dire servir tout le monde de la même manière, avec une présence 6 jours sur 7, etc. Donc, mais là aussi, quand on leur parle de ça, pour eux, c'est de la science-fiction, ils n'en ont plus rien à faire. S'ils pouvaient demain matin se retirer de tous ces quartiers, mais ils le feraient, mais absolument volontiers, parce que pour eux, c'est pas très intéressant financièrement, etc. Mais nous, on se bat pour essayer d'emmener une qualité de service et le maintien du service public absolument partout. Ça, c'est une bataille, je pense, fondamentale.
Et toi, Kamel, en termes de répression, McDonald's a utilisé aussi du coup des faux témoignages. Qu'est-ce que ça a entraîné aussi au sein du McDo Saint-Barthélemy comme difficulté avec les autres employés?
Cette violence, on l'a subie, ça fait, je vais vous donner un exemple concret. Il y a eu une condamnation contre McDonald's en 2014. McDo a créé un lockout. Coupure de toute base d'informatique, plus de livraison. Donc on s'est retrouvé dans le néant. Les salariés sont venus, ils ont tenu leur poste, ont fait des nettoyages. On leur a pas servi, on leur a pas donné les moyens de pouvoir servir la clientèle. Donc quand on est parti en référé, on a demandé de pouvoir rémunérer les salariés qui ont été là, présents, qui ont tenu leur poste. Mais vous, vous n'avez pas respecté de pouvoir leur donner les outils de travailler. Donc on a eu gain de cause sur Marseille. On a eu le tribunal de Marseille qui reconnaît que McDonald's n'a pas mis l'outil de travail à disposition des salariés parce qu'ils étaient présents. Donc ils ont eu 1 000 euros de dommages et intérêts. Plus le remboursement de leur salaire. Donc Martigues, ils ont eu une autre décision différente parce que je ne sais pas si ils voient le monde du travail d'ailleurs pas la même chose, pas la même que celle du tribunal de Marseille, mais bon, on ne renvoie pas la balle à ce tribunal parce qu'il essaye de faire de son mieux. Nous on n'a rien compris, mais il y a eu trois mois de larmes parce que ça s'est passé le mois d'août. Donc les salariés en septembre, ils avaient la rentrée scolaire.
C'est en 2014 ça tu dis?
En 2014. Mmh. Donc il y a des personnes qui devaient payer leur loyer, n'ont pas pu payer leur loyer, leur crédit. Et à la fin, merci, on est condamné, on vous donne 1 000 euros de dommages et intérêts et on vous rembourse vos salaires. C'est une honte. C'est une honte. Quand on a demandé on a fait une lettre d'excuse, de demande d'excuse. Le franchisé, quand il est venu, il nous a dit on n'est pas dans un domaine de pardon. C'est hallucinant.
Donc là, c'était pour vraiment casser votre lutte parce que vous étiez unis finalement.
On était unis, mais le seul salarié qui a été payé, c'était moi. Donc ça a été vraiment un truc de malade, parce qu'on est parti au tribunal, on leur a dit, moi j'ai apparu sur une cinquantaine d'articles, pourquoi moi vous m'avez payé, que je suis au cœur du mouvement social, je suis sur pas mal d'articles, et les salariés qui ont pointé, qui ont travaillé, n'ont pas été payés. Tout ça pour essayer de mettre les salariés contre moi.
Ouais.
Mais c'est rigolo, c'est des méthodes un peu de voyoucratie. C'est même pas c'est un niveau très bas.
Et là bon, les collègues se sont bien rendus compte de se diviser pour mieux régner, ou il a fallu justifier
Mais ils l'ont compris. Ouais. Ils l'ont compris. C'est pour ça que en 2018 on s'est levé d'une force, hein, et on a réussi à tirer l'alerte dans la sphère médiatique, même on peut dire mondiale, que ce soit sur le New York Times, El País ou d'autres articles qui sont internationaux.
C'était suite à la tentative d'immolation ou parler de ça ou...
Oui, parce qu'ils nous ont amenés à bout. On essaie de dénoncer que c'est une société qui gagne énormément d'argent, mais qu'ils nous mettent, qu'ils essayent de faire porter le chapeau aux contribuables, que nous, la seule chose qu'on demande, c'est de respecter notre dignité. On est certes issu des quartiers nord, là où on est pointé du doigt comme des personnes faisant partie d'une communauté de racailles, à leurs yeux. Alors cette communauté, elle a essayé de leur répondre le plus sagement possible, même que la haine à l'intérieur, elle y est forte. Et on essaye de l'exprimer de la meilleure manière, qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui voudraient continuer à être respectés. Il n'y a pas que des crapuleux, il n'y a pas que des gens délinquants. Il y a des gens que aujourd'hui ils n'ont pas le choix que de devenir des délinquants, parce que on leur supprime leur lieu de vie, leur lieu de travail, que ce soit les camarades de Carrefour on parle d'eux, et demain, si on envoie, on enlève le deuxième employé, le premier employé de Quartier Nord qui est Carrefour, le deuxième c'est McDonald's. C'est dire, on supprime, et aujourd'hui, oui, même qu'on indemnise les salariés, mais on handicape un quartier de pouvoir continuer à vivre, à créer de l'emploi.
Et tu disais que c'était un peu central quand je t'ai entendu en AG, justement au McDo de Saint-Barthélemy, parce qu'il y a des AG qui se tiennent là-bas maintenant qu'il est occupé. Tu parlais de ce McDonald's comme un lieu central, où c'est le seul endroit où il y a une aire de jeu pour les enfants.
Exactement, c'est
notamment,
la place.
Enfin, je veux dire, ça,
c'est la place du village, parce que quand on regarde les quartiers en face, voilà, ils ont rien, ils ont que le béton pour pouvoir essayer de. Le béton et un ballon. Donc aujourd'hui, ben, y a une petite aire de jeu là où des enfants qui puissent partager un petit moment de joie, de fraternité, d'apprendre à connaître les uns et les autres. C'est la différence qu'on a, nous, dans ces quartiers-là. Il n'y a pas de guerre de banlieue ou de comme il y a à Paris le 92 contre tel que le 77 ou le 93 pour une place de gare ou les rivalités de quartier. Aujourd'hui, par rapport à cette place du village, eh ben, y a des personnes qui travaillent de fond vert, de la bussurine, des cèdres, là où il y a des quartiers un peu sensibles et qui sont, comme on dit, des quartiers chauds. Mais ces quartiers chauds, eh ben, ils ont réussi à créer une fraternité, il y a des familles qui viennent, et voilà, il y a une joie. Quand il y a un souci, on peut le régler de suite et se dire, voilà, on a créé vraiment des liens. Et ces liens-là, eh ben, la seule chose que nous, on souhaite, c'est de ne pas les perdre. Et aujourd'hui, McDo a mis tout en œuvre pour pouvoir diviser, fracturer cette... Fraternité.
Et comment ça s'est passé du coup tu parlais de 2018, tu vas peut-être te laisser voir un coup. Tu parlais de 2018, il y a eu cette tentative d'immolation, c'est quand même un acte fort. C'est peut-être ce à quoi tu faisais référence quand tu parlais des médias à l'étranger, une lutte à ce moment-là. Est-ce que McDonald's a... Enfin, déjà, est-ce que tu veux nous parler de ça? Est-ce que McDonald's a répliqué bon, ça c'est déjà été quand même discuté. Est-ce que aussi, je me posais la question de savoir, bon là, vous parlez de des luttes locales. Est-ce que il y a les autres McDo qui ont suivi ou McDonald's? Tu parlais de Martigues. Est-ce qu'il y a eu...
Non, j'ai parlé du tribunal de Martigues.
Ouais, mais pourquoi il était en jeu celui-là?
Parce que on était dans une US, là où cette US détenait tant de restaurants, comme le restaurant de Vitrolles dépend du tribunal de Martigues. Et le restaurant de Saint-Barthélemy dépend de... C'est par zone, c'est déterminé par zone géographique. Donc c'était juste pour raconter ou mettre en évidence une situation avec deux décisions différentes, alors que c'est un problème commun. Comment ils l'ont pris? Donc du coup, les six restaurants, c'était à cette époque-là, ben, ils se sont arrêtés de travailler. Il y a eu une solidarité des camarades de Paris aussi qui sont descendus de Rouen. Donc.
Excuse-moi, juste les six restaurants, tu dis six restaurants?
Six restaurants, c'était le restaurant de Vitrolles, Saint-Victoré, Grand Littoral, Blancard et Plan de Campagne et Saint-Barthélemy, bien sûr, le sixième. Qu'ils ont isolé et ils ont cherché à le mettre en échec, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a commencé la lutte, on a commencé, nous, de Saint-Barthélemy, on était 7 personnes et on s'est retrouvés à plus de 300 dans la rue, à pouvoir avoir un 13e mois, une participation bénéfice, même que McDo a les moyens de pouvoir monter des holdings et faire des tours de passe-passe. On appelle ça le coup du foulard, qu'ils ne gagnent pas d'argent. On a réussi à avoir des heures de nuit, des primes trimestrielles, donc, et surtout une mutuelle prise en charge à 95% par le patron. Donc, voir que l'entreprise, si elle donne tout ça, c'est qu'elle se porte très bien. Sinon, elle ne donnerait rien. On a pu obtenir 5% d'augmentation à l'époque, quand on était 1200 salariés, parce que il y avait une forte convergence ou une intersyndicale très forte. Et c'est par cette intersyndicale qu'on a pu mettre à plat nos égos, nos problèmes et réussir à construire pour l'intérêt des salariés. Donc, et de là, ben, c'est là où on a démontré à cette enseigne que notre force à nous, c'est nous. Et notre faiblesse à nous, on sait très bien que c'est nous. Donc c'est ça qui leur fait peur, parce que dans ce système-là, que ce soit la Poste, que ce soit dans d'autres entreprises, ils ne souhaitent pas qu'on s'organise. On ne souhaite pas qu'on crée des liens entre les uns et les autres. Chez McDonald's, on travaille, on finit notre travail, on mange notre repas et on quitte les lieux. Et quand on a remarqué, une seule chose, quand on arrivait, on faisait des actions dans des restaurants et tout ça, eh ben, c'est là où les salariés, ils apprennent à se connaître. C'est là où les salariés commencent à prendre le temps de discuter entre eux. Parce que demain, si on n'a pas des liens, si on vous licencie, eh ben, ça ne fait rien. On vous connaît pas, on vous remplace par d'autres. Et si nous licencions nous-mêmes, eh ben, voilà, personne ne nous suivra parce qu'il n'y a pas de lien. Mais si on commence à créer des liens, si on vous licencie, ça va nous peiner. Ça va... Si on vous licencie injustement, on va essayer de prendre le courage de dénoncer ou d'essayer de vous défendre. Donc, ils ne veulent pas de cette fraternité dans ces entreprises.
Donc, il y a une vraie cohésion de groupe. Tu as ressenti aussi, Serge, à la Poste ?
Oui, c'est exactement, on est sur les... voilà, toute entreprise confondue, je pense qu'on est exactement sur ces principes-là. C'est-à-dire que notre premier travail, c'est vraiment de créer ce lien-là. Par exemple, avec le développement de la précarité à la Poste, c'est clairement un des problèmes qu'on a ressenti. C'était effectivement la nécessité de recréer du lien, parce que les gens venaient travailler, certains faisaient 1, 2, 3 jours, partaient, on n'avait même pas le temps de connaître le prénom de la personne qui travaillait à côté de nous. Et ça avait créé une espèce d'indifférence au sort des précaires absolument terrible. Donc on a réussi à mettre un frein à ça, et cette année, sur l'année là, 2019, on a réussi à faire embaucher en CDI 10 personnes sur le bureau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que se posait la problématique de départ de collègues, que ce soit à la retraite, que ce soit, malheureusement on a beaucoup de démissions et de ruptures conventionnelles, parce que là il y a plein de gens qu'on en ras-le-bol. Ils embauchaient des précaires, et à un moment donné, ils voulaient faire une espèce de turnover en disant « Bon ben voilà, lui ça fait un an qu'il est là, il va commencer à vouloir revendiquer un CDI, on va essayer de le mettre de côté, en prendre note, etc. » Et c'est vrai que on s'est mis systématiquement à s'y opposer et à exiger l'embauche du collègue. Ça a créé du lien. Alors tout n'est pas parfait, mais c'est clair que si on s'habitue à ce genre de choses, effectivement, on va créer de l'individualisme, de l'indifférence par rapport au sort des collègues, et on va pas s'en sortir. Et notre premier travail, je pense, c'est effectivement la création ou recréer les liens de fraternité entre les travailleurs et les travailleuses. C'est essentiel. Et effectivement, le rôle de nos entreprises respectives, c'est d'essayer de le détruire à tout prix, par différentes méthodes, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit par la répression, mais aussi par des espèces de promotions pilotées. Nous, on a beaucoup ça en ce moment, beaucoup de gens promus extrêmement rapidement à des postes, petits postes, petits chefs, hein, faut pas non plus, voilà, on ne devient pas directeur comme ça en claquant des doigts, mais quand même des promotions qui se succèdent relativement vite, donc une autre méthode, une autre façon de
la
faire,
carotte.
Voilà, en disant, ben voilà, tu vas gagner 50 euros de plus, et certains, on leur met un petit grade, et ça devient, voilà, quoi. Malheureusement, ça, c'est des méthodes anciennes, mais qui marchent toujours.
Ce qui est injuste, c'est qu'on fait un choix de sentiment, souvent dans des entreprises, et ces choix de sentiments au détriment de pas mal de personnes, ou de tenir une classe sociale au plus bas possible, au lieu de faire un choix de raison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas s'il a droit, donc il mérite.
On va faire une pause musicale, parce que le temps passe, c'est intéressant. Mais voilà, on va accueillir aussi Tony qui nous a rejoint. Donc une petite pause musicale et puis on revient sur Libre Débat, Radio Galère. On va entendre La Canaille, l'usine. Voilà, puisqu'on est sur la thématique aussi du travail.
La dernière moulée. On vient le remplacer. Quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé. Grimpe les escaliers, va pouvoir pisser. Se laver les mains, fissa avant de pouvoir les crailler. Dans le local, qui est tellement sale. Quand en normal, ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME. Ça parle PMU à côté de lui. En face, les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Deux, trois conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort. Avant de reprendre l'effort, il écrase son mégo, rentre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. V'là nous vont trop de moules qui s'ouvrent et se referment chaque 30 secondes chrono. Pour éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour, ici c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Alors, vous êtes bien en direct sur Radio Galère, l'émission de Libre Débat, qui accueille aujourd'hui Serge de La Poste, Kamel du McDo, et puis qui vient juste d'arriver, Tony du McDo aussi, mais plutôt de Sud, et qui aujourd'hui va devenir, va être représentant au Prud'homme. Bonjour Tony.
Bonjour.
Donc toi, tu es aussi sur le McDonald's.
Absolument, je fais partie de l'un des 6 restos de l'ex-US Mur, dont vous parlez, mon camarade Kamel Gamari, dont le seul resto de Sainte-Marthe qui a été morcelé et mis à l'écart par simple problème syndical, parce qu'il y a une pub chez McDo qui dit « Venez comme vous êtes ». C'est venez comme vous êtes, mais pas trop syndiqué.
Oui, c'est ça.
Donc, quand la défense syndicale est omniprésente dans les restos, ben, McDo fait tout pour justement éviter que le syndicat se propage et que justement ses salariés puissent avoir des acquis supplémentaires.
Très bien. On parlait juste avant la petite pause musicale de la répression, de ce que ça pousse à faire aussi. Tu voulais revenir là-dessus, Kamel.
Vous m'avez posé la question sur qu'est-ce qui m'a amené à vouloir m'immoler. Donc, j'aime pas trop parler de ce moment-là parce que c'est un moment qui est triste. Qui m'a amené à un désespoir. J'aimerais bien que cette question-là, on puisse se la poser à nous-mêmes ou à notre camarade Anas, qui est étudiant de Lyon. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'immoler ? Donc aujourd'hui, quand on est travailleur et on ne mange pas, on n'arrive pas à vivre. Donc moi, ce qui m'a poussé, c'est que voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'aime les étudiants parce que je les côtoie au quotidien, à travers notre enseigne, voir la misère et l'effort qu'ils font pour pouvoir essayer de s'en sortir dans cette vie, se dire mince, aucune reconnaissance, que des soucis, nous avons un laps de temps de vie, nous sommes des voyageurs dans cette vie. On aimerait bien voyager paisiblement et se dire que aujourd'hui, j'ai à passer un message à ces patronants ou à ces personnes qui sont là à mettre leur profit au détriment des personnes et se dire que les cimetières ne sont pas remplis que des gens pauvres. À eux de prendre conscience que cette vie-là, nous sommes que des voyageurs et on aimerait vivre et voyager sans nous arracher notre dignité sans nous opprimer. Parce qu'on ne dit pas que les riches ne doivent pas être riches. On dit que le partage des richesses, elle doit se faire. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on remercie les Gilets jaunes. Parce que ils ont réussi à comprendre que on est face à un système qui est violent et nous avons des intérêts communs, que si on porte ce gilet, c'est une détresse humaine. Se dire qu'on soit retraité, on n'aimerait pas être maltraité, parce que la plupart des personnes qui ont travaillé toute leur vie finissent une vie de malheureux.
À la CARSAT, d'ailleurs, il y avait aussi une personne qui s'était immolée à Marseille. Il y avait une mobilisation, je sais plus quand c'était d'ailleurs, mais bon, bref, il y a quelques années. Et du coup, tu parlais des gilets jaunes. Peut-être qu'on peut rebondir maintenant sur depuis un an, peut-être les changements qu'il y a eu en termes de soutien. Est-ce que les mobilisations des gilets jaunes ont apporté des personnes qui sont venues pour soutenir? Est-ce que dans l'entourage familial, des amis qui sont pas forcément des gens engagés, je sais pas, est-ce que vous avez eu plus de compréhension parce que ça a touché plus de personnes que les personnes syndiquées? Est-ce qu'il y a eu un changement?
Alors, du coup, moi, j'ai un point de vue peut-être un peu particulier. En tant que militant syndical, bah déjà, voir l'apparition quasi spontanée comme ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant de se dire que, à tout moment, dans le mouvement social, même lorsqu'on a l'impression d'avoir touché le fond, il y a des rebonds possibles et que personne n'a vu venir. Très honnêtement, voilà. Et ça a été une surprise totale, j'imagine aussi pour le pouvoir, au vu de la répression qui s'est exercée contre les Gilets jaunes. Je pense qu'aussi, eux aussi ont été surpris, à la fois en termes de masse de gens que ça a révélé, en termes de revendications, en termes de formes d'action, en termes aussi, effectivement, je crois qu'il y avait un décalage relativement important entre les gens qui sont syndiqués, mobilisés, je mettrais vraiment des guillemets, habituellement ou traditionnellement sur cette forme d'organisation-là, et les gens qui sont entrés en lutte de cette manière-là. Donc, j'ai assisté à un certain nombre d'AG, de gilets jaunes. Alors, je ne m'y suis pas senti à l'aise au début parce qu'il y avait un discours très antisyndical que je peux comprendre par certains aspects, parce que si les organisations syndicales étaient parfaites, on s'en serait aperçu. Mais après, je m'amalgamerais pas non plus tout le monde comme ça pour rejeter nécessairement en bloc. Donc ça a été compliqué. Je pense qu'il y a eu une période comme ça de rejet extrêmement fort. Puis les choses se sont décantées au fil du temps et on a pu commencer à discuter, à échanger et à partager un certain nombre de choses. Ça a été un cheminement où chacun a dû faire un peu des efforts. On est tous fait aussi de certaines habitudes que des fois on a du mal un peu à bousculer et à bousculer certains cadres. Et je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement dans quelque chose qui commence à ressembler à une véritable convergence. Ça fait un moment qu'on scande un peu ce mot, ça revient et ça a du mal à se construire, parce que c'est toujours plus long que ce qu'on souhaiterait, hein, très clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans le mouvement contre la réforme de la retraite à points, très clairement, il y a des échanges, il y a des mobilisations qui se font, l'information circule entre les organisations syndicales, certains collectifs, les Gilets jaunes, et je crois qu'on est arrivé à un point où on a tous compris qu'on avait des intérêts communs, des formes d'organisation qui peuvent être différentes, mais on arrive à se retrouver sur ces actions, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il y avait une tentative d'essayer de avec au moment de la loi M. Khomri, là, il y a 3 ans, la loi travail, il y avait des cortèges de têtes qui n'étaient pas forcément, justement, qui voulaient dépasser l'aspect de syndicat. Donc, pour qu'il y ait plus de gens, il y a aussi des précaires qui défilaient. Et effectivement, il y a eu des incompréhensions des deux côtés. Moi, je m'en rappelle très bien de menaces de viol perpétrées par le SO de la CGT. Un grand gars là, très impressionnant, qui gazait et matraquait des gamins, des lycéens et des lycéennes avec des menaces de viol. Enfin, ça, c'est scandaleux, quoi. Et petite pensée à cette personne, évidemment. Et donc voilà, effectivement, ben, c'est pas évident de que les syndicats captent à un moment que oui, ben, y a pas qu'eux, en fait, et va peut-être falloir le prendre en considération. De toute façon, effectivement, il y a les précaires, il y a énormément de gens qui se mobilisent, et il y a pas que les syndicats. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses non plus avec les syndicats. Et ça, ça prend du temps. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait pas forcément autant de syndicats dans la rue l'année passée, je sais pas, mais bon, voilà, à voir maintenant ce qui va être possible de faire.
Ce qui est beau aujourd'hui, ce que vous dites, il y a eu des luttes auparavant. Il faut prendre en considération qu'on est un peuple d'émotions, et aujourd'hui, grâce aux Gilets jaunes, on commence à devenir un peuple de réflexion, de pouvoir essayer de se heurter pour mieux se comprendre, essayer de mettre l'émetteur ou le récepteur au même niveau pour que l'information, ce qu'il dit, est réellement compris entre syndicats, gilets jaunes, collectifs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'organisent, même qui ne sont pas gilets jaunes, qui ouvrent des maisons de peuple. Ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, eh ben... Nous, il y a une prise de conscience et on remercie ces gilets jaunes parce que nous sommes gilets jaunes inconsciemment depuis notre naissance face à cette violence policière, sociale, toutes sortes de violences qu'on rencontre aujourd'hui, des éborgnés, des gens qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, merci à eux parce qu'ils nous ont mis sous des projecteurs. Et on apprend à s'organiser, à s'entendre. Il y a un an, on essayait de se heurter, se dire « mince, nous on a raison, mais en fait on veut tous le même but, on cherche tous le même but, mais on veut imposer comment le faire ». Donc à force de se chercher, aujourd'hui on a réussi à se trouver, parce qu'on se trouve dans la rue tous. C'est ça qui nous lie avec des différents collectifs, associations. On parle de syndicats des quartiers populaires qui a émergé aujourd'hui, qui a créé des liens. Il y a des passerelles entre le centre-ville et Marseille, le centre-ville et les quartiers nord, que malgré qu'ils ont mis les moyens de pouvoir nous séparer, parce que des quartiers nord, on n'a qu'un seul bus pour accéder au centre-ville, alors qu'au centre-ville, on a le métro, le tramway, le Vélib, la trottinette, le bus, donc à une population de pas pouvoir essayer de partager la même misère, de se dire, voilà, on souffre, et aujourd'hui, malheureusement, avec le drame de Noailles, a réussi à créer une solidarité énorme entre les Marseillaises et les Marseillais, que se dire, voilà, on en a marre d'un système qui opprime l'être humain.
Il y a moi je pense aux femmes de chambre en lutte, soutenues du coup par la CNTSO Nettoyage, et qui ont été en grève pendant 6 mois à partir du 11 avril, qui ont dû raccrocher les wagons avec le travail. Malgré une grosse mobilisation, un soutien de la part des féministes, de la part du syndicat, de la part de plein de gens, chaque mois, elles avaient leur chèque et elles ont quand même dû reprendre leur travail, parce que là, ça, c'est une autre réalité en fait, il y a beaucoup de femmes de chambre qui doivent avoir des renouvellements de titres de séjour. et du coup qui devaient avoir des fiches de paye. Et ça, c'est une réalité en fait qu'on pense pas forcément quand on n'est pas dans cette situation là. Et elle scandait tout le temps l'esclavage, c'est fini, comme les personnes d'Intercontinental, de l'hôtel Ibis, enfin de plein d'endroits en France, de ces groupes de NH Collection, de groupes d'hôtels de luxe et compagnie. Et du coup, moi, ça me fait penser à cette question-là. Est-ce que au McDo, Serge aussi, à la Poste, est-ce qu'il y a une multiplicité des oppressions quand elles disent l'esclavage c'est fini? Évidemment, ça fait référence quand même au colonialisme, au racisme de l'État, d'État. Est-ce que vous avez vécu la même chose au McDo, à la Poste?
Nous, on a l'impression qu'on est toujours dans une monarchie, parce que quand on nous parle de démocratie, je pense que si on parlait de démocratie, on n'en serait pas dans une violence sociale. Se dire, je tiens à les féliciter, à ces femmes-là, parce que d'avoir le courage de pouvoir s'exprimer et de dénoncer ces violences sociales, comme les camarades d'Honnête aussi, on n'oublie pas leur long combat, comme d'autres camarades qui sont en train de subir des violences, comme Alteo, l'usine
Alteo,
Gardanne.
C'est à Gardanne.
Donc eux aussi sont en liquidation judiciaire. Il y a des temps comme le camarade Poutou, Ford aussi.
Les femmes, là, elles étaient invitées pour l'émission d'aujourd'hui. Après, il y a la réalité aussi que tous les trois, vous êtes des hommes, qu'elles se sont des femmes et que, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en tout cas, là, ce sont elles qui doivent s'en occuper. Et du coup, elles n'ont pas pu venir aussi. C'est aussi une réalité.
Je dirais que ces femmes-là, elles font la fierté de notre société. Donc, franchement, quand nous, en tant qu'hommes, on les voit courageuses, ça nous donne encore plus de courage de mieux faire. C'est ça qui est beau.
Et du coup, par rapport à ce qu'elle scande, l'esclavage c'est fini, est-ce que ça vous fait écho? Pas spécialement.
Si, de manière extrêmement concrète, la Poste pratique comme NH et ces entreprises-là. Il y a un conflit en cours à Chronopost, qui est une filiale à 100% de la Poste en région parisienne, de travailleurs, là c'est essentiellement des hommes, sans papier, qui travaillent pour Chronopost. En fait, pour eux, c'est simple, ils veulent des salariés corvéables à merci, dont ils savent très bien qu'ils ne pourront rien dire parce qu'ils les tiennent totalement par le biais de l'obligation qu'ils ont d'avoir un travail. Donc ils ferment les yeux sur leur situation administrative pour mieux les exploiter. Sauf que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure là sur les gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, même si les difficultés sont absolument énormes et pèsent sur ces travailleurs et ces travailleuses, ils arrivent quand même à un moment donné à se révolter, à s'organiser, et c'est ça qui fait chaud au cœur, parce qu'ils se sont mis en grève, certains ont été régularisés, pour d'autres le combat continue, et je pense qu'ils sont dans la même situation que ces femmes de ménage, c'est-à-dire ce sont les plus exploités de la société, du fait de leur situation administrative, ils sont des cibles faciles pour tous les patrons voyous, qui les exploitent sans vergogne. Et le fait qu'ils réussissent à s'organiser, c'est une leçon, je crois, pour tout le monde. Parce qu'ils sont dans la situation la plus difficile qu'il soit. Ils arrivent à lutter, même si, des fois, la victoire n'est pas nécessairement au bout. Mais en tout cas, c'est une leçon formidable qu'on doit tous méditer. C'est de se dire, oui, on peut se bagarrer, on peut gagner, quelle que soit sa situation, grâce à la solidarité, grâce à l'organisation. Et ça, c'est une sacrée leçon.
Il y a justement, en parlant de lutte, l'occupation aujourd'hui, parce que je vois que le temps tourne, donc il ne reste pas très longtemps, mais est-ce que tu peux nous parler de cette volonté de garder ouvert le McDonald's aujourd'hui?
On souhaite le garder parce que c'est notre place du village. On essaye de s'organiser du mieux qu'on peut pour pouvoir essayer de faire vivre ce lieu. Et aujourd'hui, même mon camarade Tony peut le confirmer, on n'est plus salariés de Soleba, nous sommes salariés de McDonald's France. Nous sommes salariés d'une multinationale qui génère des milliards d'euros. Donc le combat juridique continue, physique aussi, parce que le combat juridique ne suffit pas. On ne gagne pas toujours que dans les tribunaux. Aujourd'hui, il va falloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir essayer de mettre cette multinationale face à ses responsabilités.
Et là, du coup, le restaurant, il est ouvert. Il est occupé. Est-ce qu'on peut y passer? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas?
Eh ben, on pourra trouver de la chaleur humaine, premièrement. Ensuite, des salariés, ils y sont présents dans leur lieu de travail. On préserve l'outil du travail parce qu'on veut le conserver. On essaye de faire du nettoyage, on essaye d'organiser des âgés, on va voir comment on peut faire, même si on peut s'organiser à faire des maraudes ou essayer d'accueillir des personnes qui veulent partager une petite soupe de fraternité.
Des cantines là-bas.
Des cantines, on peut tout faire. Donc, tant qu'on est salarié de cette multinationale, aujourd'hui, le combat, il est loin d'être fini et je vais laisser Tony pouvoir s'exprimer là-dessus.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
C'est très court, je suis désolé.
Donc pour faire très simple, il a été prononcé la liquidation judiciaire le 13 décembre. Par conséquent, c'est la suite logique de la procédure qui fait son cours. Les transferts des contrats ont été effectués par le biais de la justice à MSA, qui se trouve être McDo France, qui est le nouveau employeur et réellement dans la légalité des salariés de Sodeba. Leurs droits futurs, dans l'intérêt de préserver leurs droits futurs à l'égard des AGS et conformément à la loi, nous envisageons de monter des procédures afin de mettre vraiment face au mur et surtout face à ses responsabilités McDo France, qui dans le cadre, je rappelle bien, de la légalité, est redevenu l'employeur officiel de tous ses salariés.
Donc, excusez-moi, je trouve que notre fierté aujourd'hui et notre combat, que ce ne soit pas le contribuable qui puisse payer la misère que McDonald's nous a fait. Aujourd'hui, si McDonald's souhaite nous mettre au chômage, ce n'est pas au contribuable. Donc McDonald's est une multinationale qui génère des milliards d'euros. À elle de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas aux citoyens qui se lèvent tous les matins et essayer de pouvoir couvrir la misère qu'ils sont en train de créer.
Oui, d'autant plus que tu disais en fait, le McDo générait des profits. Enfin, c'est vraiment pour couper cette équipe de lutte, quoi.
Regardez, je vous en donne un petit document.
Ah. Vas-y.
Tellement il y a des chiffres, je pense que je n'arrive pas à le lire.
McDo, il fait
450 000 euros. Donc, c'est la SAS McDonald's France qui est l'employeur officiel des salariés
de Saint-Barthélemy.
Donc, en l'occurrence, c'est une multinationale qui a la responsabilité sociale, qui réalise des centaines de millions d'euros de bénéfices chaque année en France. McDo doit s'engager à garantir l'emploi des salariés, les salaires, et les salariés, surtout, en l'occurrence, du McDonald's de Saint-Barthélemy. Donc, ils en sont responsables. Et même si on parle de la holding a été créée par McDo France et non pas par les franchisés.
Bon, mais très bien. Alors, du coup, les prochains rendez-vous... Alors, vous pouvez suivre, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, tous les rendez-vous, manifestations, les actions sur Marseille Info Autonome qui regroupe vraiment un petit peu tout ce qui se passe actuellement. S'il y a la volonté d'aller visiter, prendre contact, rencontrer toute l'équipe du McDo Saint-Barthélemy, c'est maintenant. Et s'il y a d'autres rendez-vous?
Je dirais que pas que l'équipe de Saint-Barthélemy, toutes les luttes qu'il y a actuelles, parce que chaque lutte est importante, et essayer d'appeler à la paix entre nous, entre collectifs, citoyens, pour l'honneur de l'humanité.
Très bien. Et puis il y a Bug qui voulait annoncer quelque chose aussi, Bug de la technique.
Et oui, on m'entend.
Oui.
Oui, je voulais dire que comme les luttes, c'est aussi international, il faut qu'on se soutienne au-delà des frontières. Et donc on a organisé une soirée de soutien aux incarcérés du Chili, du coup, qui va se dérouler le 27 décembre, donc la semaine prochaine, à partir de... Alors, il y aura du flash tattoo de 15h à 18h. Et la soirée, elle commence à 18h au Darlamifa. Il y aura un open mic à manger, un info kiosque. Il y aura des concerts et du DJ pour danser.
Super. Voilà,
à prix libre, tout ça.
À prix libre. Donc, Darlamifa, c'est au 127 ou quelque chose comme ça, en haut de la rue d'Aubagne.
Oui, en haut de la rue d'Aubagne.
Bon, mais très bien, bah merci d'être venu. On va se quitter peut-être, je ne sais pas si on a le temps de mettre au moins quelques secondes avant de passer à une autre émission. Revolution Action Atari Teenage Riot. Donc histoire de mettre un peu la patate pour terminer cette émission. Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Atari.